historical film document was made by the Fox Movietone cameramen, the brothers Georges and Raymond Méjart. The French seized it, released it, and seized it again. But now Movietone, thanks to the speed of the SS Washington, is enabled to present this, the most historic film document of our time.
Les actualités cinématographiques avant le journal télé. Troisième épisode de notre semaine spéciale consacrée à l'archéologie des médias. L'archéologie, pourquoi ? Parce que nous avions envie de fouiller ces mondes lointains et oubliés. Ces mondes d'avant la presse, d'avant l'image et d'avant le son. Ces messagers transportant l'information à cheval ou à pied. Ces instruments magiques projetant à l'écran nos peurs et nos fantasmes. Ces premières ondes merveilleuses. Ce Minitel ancestral qui fit naître la connexion, tous ces procédés qui précédèrent les journaux, le cinéma, la radio, la télévision et l'internet. Bienvenue au temps des découvreurs et des pionniers, au temps du hasard et des grandes mutations de l'histoire. Ici, il sera question d'invention et de pouvoir, car dès les origines, le politique n'est jamais très loin du médiatique. Ce matin, du sang, des larmes et des catastrophes, naissance du spectaculaire.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Serge Vialet.
Bonjour Sonia de Villers.
Serge Vialet, vous êtes un maître des archives et de l'histoire des archives. On connaît notamment votre série Mystère d'archives sur Arte. J'aimerais que nous remontions au temps des premiers, à la fin justement du 19e siècle, à la bascule, au moment où naissent les premières images. On va commencer avec des images sans son.
Oui. Alors on va commencer avec des images sans son, tournées notamment par Charles Moisson. Mm-hmm. Le premier grand reportage date de 1897. Et c'est le politique qui s'empare de ce nouveau média. Le président Félix Faure est en voyage dans l'ouest de la France et Charles Moisson le suit pendant une dizaine de jours. Tous les jours, il tourne une bobine de film d'environ 50 à 55 secondes. Ce qu'on appelle une vue-lumière. Et donc, c'est le premier reportage de l'histoire du cinéma. Et bien sûr, c'est muet. Mais le président de la République et son entourage et ses ministres savent très bien que ce nouveau média est important. Et souvent, c'est ça qui est extraordinaire, dès 1897, le président de la République souvent salue vers la caméra et non pas vers le public qui est présent.
C'est-à-dire qu'on a déjà conscience de la médiatisation et de l'enjeu de l'image.
On a immédiatement conscience de cela. Et le succès est aussi extraordinairement rapide que celui du smartphone.
On doit à Charles Pathé l'idée des actualités cinématographiques. Parce qu'il y a l'idée qu'on va se servir de la caméra pour chasser des images. Il y a l'idée qu'on va construire un récit autour de l'actualité et se servir du cinéma.
Merci d'évoquer cela. On est donc en 1908. Charles Pathé et ses équipes ont une idée extraordinaire. Ils décident d'accompagner les films de long métrage et les films de fiction qui passent dans leurs salles, dans les salles Pathé, d'un programme que l'on va appeler les actualités cinématographiques. Ça dure plusieurs minutes avec des petites rubriques. Bien sûr, c'est muet toujours, avec des petites rubriques qui peuvent concerner l'actualité politique, bien sûr, l'actualité sociale, des accidents d'avion, du sport, il n'y a pas encore de météo. Mais si vous voulez, on peut dire qu'en 1908, nous avons l'ancêtre de ce qui sera beaucoup plus tard le journal télévisé. Ça dure plusieurs minutes et comme il n'y a pas de son, il y a des petits écrits qui peuvent être lus par ceux qui savent lire, et ceux qui ne savent pas lire dans les salles demandent aux autres de leur lire à haute voix. Et ça, ça va durer jusqu'en 1927. Bien sûr, Gaumont prend le relais très rapidement, deux ans plus tard. La concurrence se lance, et ça s'enchaîne partout, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Tout le monde a compris que c'est ça ce qu'il faut faire. Pourquoi ?
Donc c'est une invention française, les actualités cinématographiques.
C'est une invention française. Mais ce qui se passe, c'est que la concurrence est telle qu'il faut offrir, qu'est-ce qu'on offre au cinéma ? On offre des films avec des vedettes, mais il faut ajouter d'autres choses. Donc l'idée de Charles Pathé et son équipe est extraordinaire parce qu'il propose un regard sur le monde. En France, on appelle ça les actualités cinématographiques. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on appelle ça les news reels, en référence aux news papers, news Papers pour le nouvelles papier. Du papier et Newsreels pour nouvelles en bobine, c'est-à-dire bobine de film.
C'est ça, les bobines de films, avec l'idée néanmoins que certaines de ces news, de ces nouvelles, de ces actualités vont être rejouées, vont être reconstituées, ce qui coûte cher.
Oui.
Il n'y a pas volonté, de bidonner.
Parfaitement.
Il y a volonté de mettre en scène l'actualité.
Il y a volonté de raconter.
C'est ça.
De raconter. Alors, quand on peut pas filmer un tremblement de terre parce qu'il se déroule à San Francisco et que, bien sûr, on n'a pas le temps d'envoyer des caméras de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il n'y a même pas encore d'avion qui traverse l'Atlantique, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reconstitue, on raconte l'événement. Quand il y a un assassinat...
Avec des acteurs, avec des décors.
Avec des acteurs, des décors qui travaillent dans des, derrière, juste derrière chez Pathé, n'est-ce pas? À Vincennes, c'est juste derrière. Et puis voilà, on
Et on appelle ça de l'information.
Ah, non.
Non.
Aïe, 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 non, doucement. On raconte, on explique l'événement, on témoigne de l'événement comme la presse écrite le fait parfois dans certains journaux avec des dessins.
Avec de l'illustration.
Donc le départ de ces actualités que le grand public commence à voir sur très grand écran. Quand vous allez au Gaumont Palace en 1911, il est créé dans un hippodrome, n'est-ce pas ? On fait rentrer 6000 personnes. On peut avoir 40 musiciens. Des choristes. L'écran est gigantesque, donc l'image est extrêmement impressionnante. Donc on donne du son par de la musique, par de la voix, mais on rêve, bien sûr, de pouvoir enregistrer le réel. On l'attend, ce réel. On donne aussi de la couleur, déjà. On donne parfois des copies, qui coûtent beaucoup plus cher, colorisées à la main, au pochoir. Donc ceux qui ont les moyens de louer des bobines de films colorisées vont faire payer plus cher la place de cinéma. Ça va durer pendant près de 20 ans.
Alors justement, on va arriver assez rapidement à cet âge d'or qui vient avec le sonore, avec le son.
Ouais.
Mais je voudrais un tout petit mot quand même sur la Première Guerre mondiale. Parce que sans doute que la reprise en main par l'État, la censure d'abord, la reprise en main des actualités
par les
équipes de l'armée, montre bien à quel point les pouvoirs publics prennent conscience de l'enjeu politique du traitement de l'actualité à travers l'image.
C'est-à-dire que c'est un moyen de communication extrêmement important pour toucher ceux qui sont à l'arrière du front, pour les rassurer, pour leur raconter ce qu'on veut leur faire savoir, pour leur cacher ce que l'on veut leur cacher, n'est-ce pas ? Donc, le média le plus extraordinaire, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est très vite, vous voyez, dès 1908, est pris en main par le politique avec beaucoup d'adresse.
Serge Vialet, je vous propose un bond dans le temps. Nous sommes en 1927, un aviateur, Lindbergh, son retour triomphal et son discours face à une foule, 500 000 personnes.
On the evening of the 21st of May last, I arrived at Le Bourget, Paris. During the week I spent in France, the day in Belgium, and the short period in London and England, the people of France and the people of Europe requested that I bring back to the people of America one message.
Et voici, Serge Vialet, que le reportage devient parlant, que les actualités sonores deviennent justement sonores, cinématographiques et sonores. Double prouesse pour deux médias naissants, les actualités au cinéma et la radio.
D'abord, vous venez d'entendre l'homme qui, en juin 1927, est l'homme le plus célèbre au monde, depuis qu'il a traversé l'Atlantique, depuis qu'il est arrivé au Bourget qu'il a évoqué dans son discours.
On l'entend dire Bourget.
N'est-ce pas ? C'est l'homme phare. C'est un jeune homme beau, grand, élégant. Et donc
tout le monde veut le voir tout le monde veut l'entendre.
Et alors, coup de génie absolu de Monsieur William Fox et ses équipes, on va enregistrer avec les caméras l'image et le son de son discours et de celui du président des États-Unis, qui a une petite voix nasillarde, un peu ridicule, parce qu'il n'a pas l'habitude de ce média aussi. Ça va être un succès retentissant. Imaginez ce beau jeune homme des années 20, ce héros qui a traversé l'Atlantique en 33 heures à bord de son monoplace, en mangeant un seul sandwich sur les quatre qu'il avait emporté avec lui, qui apparaît sur écran et qui vous parle. En même temps, il y avait un risque colossal. Si Fox Movie Tone, parce que ça s'appelle Movie Tone, Movie Film Tone, le son, avait raté, parce que la technique n'est pas très très au point,
non.
Ils étaient ridiculisés. Mais en même temps aussi, toutes les autres compagnies qui sont là,
alors,
elles filment
autres...
en noir et blanc, elles filment, pardon, en muet, et elles sont battues.
Il y a France Actualité, c'est le groupe Gaumont, il y a l'Éclair Journal, il y a les Actualités Paramount, il y a la Fox Movie Tone, il y a Metro Tone News, il y a Paris Actualité. En France, aux États-Unis, ça se bouscule, l'offre, ça se bouscule.
Alors d'abord, tout le monde est doublé par Fox Movie Tone, qui s'impose comme le grand leader, parce que la conséquence de cela, c'est qu'il faut rééquiper toutes les salles de cinéma. Oui. Ça coûte une fortune, cette affaire. Et ça va être très très lent. Parce que tout le monde maintenant demande, le grand public demande du son. Il va falloir que toutes les salles de cinéma se rééquipent. Et bientôt, en 1930, vous avez près de 100 millions de tickets de cinéma vendus par semaine aux États-Unis.
Par semaine ?
Par semaine. Vous vous rendez compte ? Vous savez que les parents, dans les années là, parlent de la drogue du cinéma. Ils sont inquiets pour leur progéniture, qui se rue plusieurs fois par semaine au cinéma, parce que ça coûte pas cher. Alors, 1930, il arrive un truc extraordinaire. La Paramount est en retard pour le son. Ils ont commencé des actualités, mais muettes, et en 1930, ils lancent leur premier sonore. Pour faire un coup d'éclat, face aux autres, qui eux sont déjà sonores, il faut trouver un truc. S'il n'y a pas d'événement, eh ben, on va l'inventer. Et l'invention est stupéfiante. Il paie des cascadeurs pour aller dans le ciel et être capable de filmer dans le ciel un avion qui prend feu et qui explose. Paramount est, cette semaine-là, les seuls à avoir réussi à filmer en direct l'explosion d'un avion dans le ciel.
C'est ça, c'est la naissance du spectaculaire.
Mais le cascadeur ne va pas mourir, lui, il va sauter.
C'est la naissance du spectaculaire.
C'est la naissance du spectaculaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de spectacles.
1934, l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie, 9 octobre 1934. Premier reportage d'actualité, un événement filmé en direct.
Une mort en direct.
Une mort en direct. On écoute.
This is Lowell Thomas speaking, bringing you the pictures of the murder of the King of Yugoslavia and the Foreign Minister of France. The scene of joy rises to climax with the thundering acclaim of the crowd. Vive le roi! Long live the King! The King who is helping France realize her ambition.
Ces images vont faire le tour du monde, Serge Vialet, le tour du monde.
Encore des images Fox Movie Tone, même si elles sont tournées par deux Français, deux frères français, les frères Méja. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le roi Alexandre de Yougoslavie débarque à Marseille pour aller à Paris. Il a pris le bateau depuis la Yougoslavie, parce qu'il y a des risques d'attentats s'il avait pris le train. Il est accueilli de façon scandaleuse à Marseille par le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou. Louis Barthou a voulu absolument que la presse cinématographique soit là pour filmer l'arrivée du roi Alexandre de Yougoslavie. Et il a promis qu'il n'y aurait aucune protection autour du roi pour qu'il puisse faire le mieux possible des images entre le port de Marseille et la gare de Marseille où il va prendre le train pour Paris. Il est à peu près 16 heures quand il monte dans une voiture. Il a été choisi une voiture décapotable. La protection rapprochée est totalement écartée. Seuls sont autour de la voiture des caméramans.
C'est l'assassinat de Kennedy que vous nous racontez.
On est compté. Non, on est en 1934. Résultat des courses, il se prend un chargeur de Mauser de 10 balles dans le buffet, si je puis dire, excusez-moi. Le ministre des Affaires étrangères, Louis Barthou, est grièvement blessé et va mourir dans les heures qui suivent. Et le général aussi, Georges, qui est à bord de la voiture, est lui aussi gravement blessé. Catastrophe. Pour avoir des images de qualité qui passeront dans les salles. Donc on est prêt à tout et donc le pouvoir politique aussi est prêt à tout. Et si le roi Alexandre de Yougoslavie est mort à Marseille en 1934, c'est bien par imprudence totale des pouvoirs publics.
Et par avidité médiatique.
Bravo,
en réalité, c'est le début de cela. Quelques années... Ensuite, dernier temps fort de cette période extraordinaire, de l'âge d'or des actualités cinématographiques, là aussi du spectaculaire, là aussi du drame, là aussi c'est mortifère, c'est un Zeppelin.
Ah,
oui. qui se crache.
These scenes were filmed by Pathé News cameraman William Deak, and you are about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute.
Serge Vialet, les cris, l'explosion, la stupeur dans les salles de cinéma, c'est la sidération. Avant de raconter ce qui s'est passé dans les salles de cinéma, il faut rappeler ce que c'est qu'un Zeppelin.
Eh bien écoutez, c'est un grand dirigeable.
Oui.
Là, en l'occurrence, le Hindenburg mesure 242 mètres. Mmh. Il transporte des passagers en général riches et célèbres depuis l'Allemagne jusque à New York. Donc c'est un moyen de transport très luxueux qui est utilisé par des gens riches et célèbres, ce qui fait que systématiquement, la presse est à leur arrivée. Ce jour-là, le Zeppelin arrive un peu en retard. La nuit va tomber, il commence à pleuvoir. Mmh. Quelques minutes plus tard, quatre caméras filment l'explosion du Hindenburg. Mais comme ils ont les mêmes images, la seule solution pour faire plus grand spectacle, c'est de faire des choix sonores, soit des musiques dramatiques, soit des cris, comme vous les avez entendus, oui. de femmes, des soirs. Tout ça est rajouté parce qu'on est dans une concurrence effrénée. Et je peux vous assurer que ce reportage va faire le tour du monde pendant de longues années, jusque dans l'après-guerre.
Et ça deviendra, ce qui est intéressant, un invariant, en fait, du cinéma, on appelle ça le cinéma catastrophe,
oui.
et un invariant des actualités à la télévision. On sait à quel point les catastrophes finalement font de l'audience et font un spectacle télévisé absolument extraordinaire et inégalable.
Vous avez parfaitement raison et donc vous voyez où ça commence.
Alors justement, après-guerre, la télévision va petit à petit vouer à la mort les actualités cinématographiques. Ce sera le Chant du Cygne.
Exactement. Alors si vous voulez, en 1963, lors des funérailles de John Fitzgerald Kennedy, là, la télévision va prendre le pouvoir sur tous les autres médias, radio comprise. Que se passe-t-il? John Kennedy est mort à Dallas. Deux jours plus tard, son cercueil est au Capitole. Il est décidé par la famille qu'il ne sera pas enterré, comme c'est la tradition pour les présidents, dans sa ville de naissance. Il est décidé qu'il sera enterré à 10 kilomètres de là, au cimetière militaire de Arlington. À ce moment-là, les trois networks américains décident de s'associer. Ils mettent 60 caméras sur le parcours entre le Capitole et le cimetière. C'est-à-dire que le grand public, quelques 175 millions de téléspectateurs américains, vont pouvoir suivre le cortège comme on le faisait traditionnellement avec le train. Le pouvoir est pris par la télévision ce jour des funérailles de Kennedy en 1963. Ce qui signifie que l'aventure des actualités cinématographiques sonores aura duré 36 ans.
Merci beaucoup, Serge Vialet.
Merci à vous, grandement.